à chacune et chacun pour ce temps de partage. Voilà, alors vous savez sans doute que des ordinations qui se préparent pour le week-end prochain, et j'aimerais revenir un petit peu dans ce soir dans cette réflexion sur ce rapport entre le prêtre et l'Eucharistie, reparler un petit peu de ce grand mystère du christianisme, l'Eucharistie. On a un père belge, canadien qui est là, et je pensais à une sainte de leur pays, une bienheureuse, Dina Bélanger, qui disait: si les chrétiens se rendaient compte de ce qui se passe à l'église, s'ils savaient ce qu'il y a au tabernacle, il faudrait des gardes du corps pour éviter que les gens prennent d'assaut les tabernacles, tellement ils seraient fascinés par le mystère d'un Dieu qui se fait si proche, si vulnérable, et qui est là, et les gens viendraient, se précipiteraient dans les églises. On aurait des cambriolages de tabernacle, pas pour profaner le Saint-Sacrement, mais pour aimer le Christ qui a choisi de demeurer parmi nous de cette manière-ci. Alors, j'aimerais reprendre un petit peu une expression que Jean-Paul II avait utilisée, qui était la stupeur eucharistique. Vous savez, le christianisme, c'est le Christ, sa loi, c'est l'amour, l'amour qui se donne jusqu'au bout, et l'expression de ce jusqu'au bout, dans l'évangile de Saint Jean, on a au chapitre 13, verset 1, cette expression: Jésus ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Le mot grec, c'est eistelos, jusqu'à l'extrême, on ne peut pas plus loin, c'est pas possible. Et cet amour jusqu'au bout, eh bien, a été la croix, bien sûr, mais a été l'hostie, l'Eucharistie. Ça, c'est l'expression la plus forte. Et les siens, c'est la même expression qui est utilisée après quand on dit: mais Jean prit Marie comme son bien propre. Et si on n'est pas pris dans cette Eucharistie, si on n'est pas pris avec Marie, eh bien il y a une autre expression qui est utilisée, qui est la même en grec, qui dit qu'on sera dispersé. On sera dispersé entre nous, c'est-à-dire qu'il y aura une déchirure du corps du Christ, mais aussi dispersé à l'intérieur de nous-mêmes, brisé à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'unification de la personne, la transfiguration de la personne, on pourrait dire la vie surnaturelle du chrétien, est branchée sur cette vie eucharistique. Et donc le prêtre, la mission première du prêtre, c'est de donner Jésus à ceux qui ont faim et soif. On était frappé, on vient de sortir d'une retraite, et notre prêtre qui prêchait la retraite disait: mais voyez-vous, regardez, il y avait des famines à l'époque du Christ, il y avait pas mal de tragédies, et Jésus, il dit, il prend du pain, il prononce des paroles, et dit: prenez, c'est ma chair, prenez, c'est mon sang. Et puis il fait ça, alors qu'il aurait pu donner à manger à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui avaient faim. Il aurait pu multiplier les pains indéfiniment, puisqu'il l'a fait quand même. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'était quand même pas mal comme coup. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nous dit l'Écriture. Donc c'était quand même pas mal. Et il aurait pu continuer, parce que tout le monde avait un petit peu faim. D'ailleurs, ils sont venus vers lui en disant: on a un petit creux, tu ne peux pas nous donner à manger. Et la réponse ultime du Christ, il n'a pas donné pouvoir au prêtre de multiplier le pain du boulanger. Il n'a pas dit: écoute, voilà, vous prendrez des pains chez le boulanger, vous achetez 3 croissants et vous réunissez 3000 personnes et vous distribuez. Voilà, vous ferez ça le dimanche matin. Et il a dit: prenez un peu de pain qui paye pas de mine, petite hostie, un peu de vin qui fait pas grand chose. Et il a dit: prenez, c'est ma chair à manger. Et vous ferez ça dorénavant, vous donnerez ça au monde qui a faim et soif. Comme pour dire: mais faites attention, il y a une faim, une soif plus profonde que la faim de pain, plus profonde que la soif. Et quand Judas a commencé à marchander avec Jésus en disant: mais ce parfum, on aurait pu le vendre pour 300 journées de travail et ça aurait fait pas mal d'argent pour donner aux pauvres. Jésus dit: mais des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce n'est pas pour opposer l'un et l'autre, on le verra tout à l'heure, mais comme pour interpeller profondément les chrétiens et pour leur dire: mais attention, comprenez bien ce qui est en train de se passer là et quel est le mystère dans lequel je vous introduis. Voilà. Alors, le prêtre est aussi, j'allais dire, le signe de cet amour de Dieu pour les hommes. Il est celui qui va d'abord recevoir la miséricorde lui-même, parce qu'il est miséricordier d'abord, et puis il est celui qui va donner la miséricorde. C'est François Mauriac qui avait écrit un jour, on lui demandait: mais qu'est-ce que le prêtre pour vous? Et il a dit: le prêtre est resté pour moi ce qu'il fut à l'aube de ma vie, mais d'abord et avant tout celui qui lie et délie, celui qui, au moment où il lève la main pour nous absoudre, ne se distingue plus du Fils de l'homme, à qui a été donné sur terre le pouvoir de remettre les péchés. Pouvoir dont nous sommes éblouis plus encore, peut-être, quand nous n'avons à confesser aucune faute grave, car c'est alors que la grâce attachée au sacrement de pénitence agit à l'état pur, si j'ose dire, et que nous la ressentons jusque dans notre chair. Ceux qui louent l'Église d'avoir inventé avant Freud une thérapeutique de l'aveu ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas de porter à la lumière nos hontes, ce n'est pas cela qui nous délivre, mais un geste, une parole, un pouvoir. Ce qu'est pour moi le prêtre, la rencontre de la puissance du Créateur et de l'infirmité de la créature dans un même être. La puissance du Créateur et l'infirmité...